Priorité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la recherche en Afrique. Alors que vient de se terminer la 17e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles, on vient d'entendre François Dabis qui nous a parlé des recherches qu'il mène en Afrique du Sud. Calorine Mekidje de Médecins Sans Frontières nous a parlé des recherches qu'elle mène au Swaziland sur la prévention de la transmission mère-enfant. Serge Ollier, vous travaillez, vous, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous travaillez aussi avec la NRS. Vous aviez envie de rebondir entre autres à ce qu'a dit François Dabis sur la prévention finalement, le traitement comme prévention, parce que vous travaillez aussi sur ces questions-là.
Déjà par rapport à ce que François et Caroline ont dit, a priori il va falloir changer de paradigme et cesser de parler de PTME, d'option B+, avant qu'on arrive à des options C+. Ou, voilà. C'est du traitement de la femme enceinte et c'est du traitement pour tous. Je pense que c'est ce qu'on va faire et ça permettra peut-être de rejoindre ce que nous, on est en train de faire dans la stratégie thérapeutique de traitement précoce en fonction des données que l'on aura. Ce que François Dabis conduit, c'est un traitement comme moyen de prévention. Nous avons proposé de faire du traitement précoce en se basant sur ce que l'OMS propose. L'OMS a proposé un seuil en 2010 à moins de 350 CD4. C'est le seuil que l'on peut dire de traitement où le patient n'est pas à un stade avancé chez les patients qui n'ont pas de signes.
C'est ça, pour qu'on comprenne bien, le CD4 voilà, montre un peu l'évolution de la maladie.
L'évolution de la maladie, qui ne sont pas avancées, mais aussi la clinique. Nous nous sommes proposés d'évaluer ce traitement précoce, c'est-à-dire les patients qui auront plus de 350 CD4. Donc nous, il y a 2000 patients. Mais ce que l'on veut avoir comme démonstration, c'est de montrer qu'il y a moins de décès, moins d'infections opportunistes que la sans sida, et puis d'autres maladies sévères telles que les maladies bactériennes. Nous aurons les résultats début 2015, on pourra les présenter. Donc pour certains pays qui ont ce nombre important de patients à mettre sous traitement, ils ne vont pas changer comme ça. L'Afrique du Sud, s'ils changent, ça leur fait 2 millions de patients en plus. Si on ajoute à cela l'option B+, qui est traitement pour toutes les femmes, ça fait un nombre important de patients. Et alors, on passera de pays qui sont arrivés à la qualité des soins à de la quantité des soins, parce que le plus gros problème lorsque l'on constate les problèmes de rétention, de suivi des patients, c'est lié au nombre de patients dans les files actives. Je crois que ça a été bien démontré.
C'est-à-dire en gros, si un médecin suit trop de patients, ça ne marche pas bien au bout d'un
moment. C'est au-delà du médecin, c'est le centre même. La deuxième étude que l'on
mène... Attendez, je vous interromps juste là-dessus, Serge. Vous étiez là à une émission fin novembre à Paris avec le professeur Katlama. Moi, ce que j'avais compris de ce qu'elle a dit, c'est qu'en fait, il faudrait mettre les patients, sans compter cette question de CD4, le plus tôt possible, systématiquement, quand on découvre leur séroprévalence. J'ai bien compris ce qu'elle disait.
Non, mais ça, c'est le point de vue d'un infectiologue qui raisonne individu. Je ferai la même chose en tant qu'infectiologue. Mais lorsqu'on raisonne aspect population programmatique et changement de décision, de recommandation, il faut qu'on ait des données qui montrent qu'il y a un bénéfice à le faire. Il y a du bénéfice individuel. On peut aller dans pas mal de considérations de fondamentales, l'inflammation, tout ce qu'on veut. Mais le ministre de la Santé n'écoute pas ce que c'est que l'inflammation chez le patient. Il y a combien de décès en moins, il y a combien d'hospitalisations en moins et combien j'ai économisé en maintenant ma population active au travail.
Vous vouliez réagir là-dessus, sur la question de l'économie, justement?
Non, mais je voulais réagir, Claire, en vous disant qu'il faudrait que vous nous... On espère que vous pourrez nous réinviter dans 2 ans à la prochaine ICASA, parce que dans 2 ans, on devrait avoir la réponse aux 2 questions. Est-ce que traiter pratiquement tout le monde, c'est laisser Temprano en Côte d'Ivoire, ça améliore leur vie et leur santé? Et on répondra à la question, est-ce que traiter pratiquement tout le monde ou tout le monde, ça réduit la transmission dans une communauté? On aura, dans les 2 ans à venir, les réponses à ces questions. Donc,
on fait un point dans 2 ans à ICASA.
Absolument.
Serge,
vous savez, lorsqu'on avait fait les prédictions des patients qu'on mettrait en seconde ligne, on avait estimé qu'on serait là en 2010-2013 à près de 16% de patients en seconde ligne de traitement. Dans l'Afrique subsaharienne, on a aux alentours de 5% contre 20% des pays d'Amérique latine et Caraïbes. Mais ces patients en seconde ligne, on se retrouve avec eux lorsqu'ils sont en échec, comme au début du traitement antirétroviral, on n'a pas de moyens pour les sauver. Mais ce qu'on a constaté, c'est que certains...
On n'a pas de moyens. Il y a des traitements, entre guillemets, de troisième ligne, mais qui sont beaucoup trop chers pour les pays
du Sud. Il y a deux choses. Les moyens peuvent être médicamenteux. Les moyens peuvent être de l'accompagnement au patient, parce que s'il n'a pas bien pris son traitement en seconde ligne, qu'on ne l'accompagne pas pour qu'il prenne bien son traitement en troisième ligne, on aura des soucis. Mais effectivement, les moyens sont d'abord médicamenteux et biologiques. Ce qu'on propose dans cet essai, qui est basé sur le génotype, Nous ne le faisons pas sur le génotype à la base, on se base sur un renforcement d'observance. C'est-à-dire qu'on se dit que le patient, même s'il a une suspicion d'échec, peut-être qu'il n'a pas bien pris, on fait un renforcement d'observance. Et si on constate que malgré ce renforcement d'observance, il continue à avoir une charge virale, qui est l'indicateur de présence du virus dans le sang, on le met sous traitement de troisième ligne. Pour nous, c'est un essai de plaidoyer. Ça va permettre de confirmer ce que l'OMS a proposé et d'amener les pays à acheter ces médicaments. L'essai se fait au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Alors, il faut comprendre, Caroline a parlé de recherche opérationnelle. Nous faisons aussi la recherche plaidoyer. C'est très important. Il ne s'agit pas de faire la recherche qui est très bien publiée dans le Lancet, dans tout ce que vous voulez. Le ministre, il ne va pas aller lire. Je connais le niveau intellectuel de nos ministres qui est très bon, mais ils ne vont pas aller lire le Lancet. C'est à nous de leur expliquer ce qu'on a trouvé dans le Lancet et pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils le mettent en œuvre. Mais il faut que cette recherche soit démonstrative.
Serge Olivier, juste une dernière question avec une réponse courte. Vous dites, ces essais, vous les menez sur des patients qui sont entre guillemets en échec thérapeutique. Et vous dites, ce sont certains patients qui n'ont pas forcément bien suivi le traitement. Est-ce que ce n'est pas aussi en cause les ruptures de stock? C'est-à-dire, il y a un bon nombre de moments où ce n'est pas le patient qui décide d'arrêter son traitement. C'est juste que dans vos pays, il y a des ruptures de stock. Et on sait qu'il y en a aussi en Afrique du Sud.
La réponse va être brève. On prend tous ces déterminants en compte, mais qu'il y ait une rupture de stock, qu'il y ait un problème lié au patient, lié au système, la conséquence sera la même. Il y aura un échec, soit avec risque de résistance, soit sans résistance.
Voilà. Mais ce n'est pas la faute du patient, c'est ça que je voulais dire.
Non, mais c'est jamais la faute du patient. Je vous ai toujours dit que le premier responsable d'un suivi du patient, c'est le système, c'est le personnel de santé. Je maintiens ce que j'ai dit.
Docteur Idrissa Ba, je voudrais qu'on parle des recherches que vous menez, donc vous, à Dakar, au Sénégal, sur les usagers de drogue. D'abord, pourquoi c'est important de s'intéresser à cette population usagée de drogue?
De plus en plus, nous voyons l'émergence de la consommation de drogue, notamment injectable dans la région ouest-africaine, qui est marquée aussi par beaucoup d'instabilité sur le plan politique, etc. etc.
C'est ça. L'Afrique n'est pas simplement un continent de transit de la drogue. Voilà. Évidemment, il y en a qui tombent du camion et qui est utilisé.
Tout à fait. Quand il y a transit, il y a une consommation locale. Et le CNLS, qui est le Comité national de lutte contre le sida, avec ses partenaires, notamment nationaux, les hôpitaux, etc., mais aussi internationaux, l'ANRS, etc., ont décidé de mener cette étude en 2011. Et cette étude nous a montré quand même qu'il y a non seulement une consommation, mais il y a aussi l'utilisation de la voie intraveineuse. Il y a aussi le fait que c'est une population qui est exposée au VIH, mais aussi aux hépatites C. Par exemple, l'enquête nous a montré que, de façon générale, 5,2% des usagers de drogue sont infectés par le VIH.
Alors que le taux du Sénégal est à 0,9%,
c'est ça? Le taux est de 0,7%. Donc ça va, c'est presque multiplié par 6 ou 7, cette fois la prévalence générale. Par rapport à l'hépatite C, où par exemple la prévalence est inférieure à 1%, nous nous retrouvons avec 24% des usagers qui sont infectés par l'hépatite C. Alors que le traitement, ça coûte cher. Il n'y a pas un programme qui permet une gratuité des soins comme ça se passe avec le VIH.
Mais pourquoi en termes de santé publique, c'est intéressant de s'occuper de ces populations usagées de drogue?
Mais justement, parce que c'est des recommandations de l'ONU-SIDA. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a un groupe qui n'est pas pris en compte, il met en danger la population de façon générale.
Il y a un risque de contamination pour les autres.
Il y a un risque de contamination. Donc nous nous sommes dit que cette population-là, il faut vraiment un peu lever le voile, c'est-à-dire montrer qu'il existe, qu'elle est là, mais aussi il faut leur favoriser, faciliter l'accès aux soins.
C'est pourquoi nous avons arrêté de dire qu'il n'y a pas ça chez nous, voilà, en Afrique, il n'y a pas d'usagers de drogue. Donc ça, c'est le premier point. Donc vous faites cette étude, vous montrez qu'il y a plus de prévalence, plus de personnes touchées par le sida chez les usagers de drogue. Mm-hmm. On en fait quoi de votre étude après? Ça veut dire justement un accès aux soins?
Voilà, on a beaucoup parlé de recherche opérationnelle, c'est ça qui est intéressant, parce que c'était une recherche opérationnelle qui visait d'abord à avoir des données fiables, mais qui vise aussi à promouvoir des réponses sanitaires ciblées, spécifiques à cette population. C'est pourquoi je me réjouis du fait que cette enquête a permis quand même au programme national en tout cas de lutte contre le sida de s'approprier cette problématique et de pouvoir inclure cette population parmi les populations clés du programme national. Et ce programme a été validé au mois de juillet.
Et concrètement, ça veut dire quoi? Des programmes d'échange de seringues pour qu'ils évitent de se passer la seringue et se contaminer par le sida, c'est ça?
En fait, nous n'avons pas attendu qu'il y ait cette intégration. Durant même l'enquête, nous nous sommes dit que le problème est très sérieux et il faut qu'on prenne des mesures. Ce qui fait que quand on a fini l'enquête, nous avons automatiquement démarré la distribution de seringues. Depuis septembre 2011, nous distribuons des seringues aux usagers parce qu'on a vu qu'il y a...
Et l'accès à la méthadone aussi, le traitement de substitution?
Bon, l'accès à la méthadone, c'était un autre travail. Je pense que d'ici courant 2014, la méthadone sera disponible. De toute façon, elle a été pour la première fois en 2011 inscrite sur la liste nationale des médicaments essentiels.
Quel est le regard de la population sénégalaise sur un programme comme ça d'échange de seringues? On sait que même en France, il y a encore des réticences, une incompréhension du grand public, ouais. Où il ne s'agit absolument pas d'inciter à l'usage de drogue, mais juste que ce soit fait dans des conditions sanitaires correctes.
Moi, je pense qu'il y a un travail vraiment de plaidoyer. Le professeur Elieu l'a dit. Il faut vraiment faire mener ce plaidoyer. Nous l'avons fait au niveau des autorités sanitaires. Nous l'avons fait au niveau des autorités politiques. Mais je pense que aussi, la population aussi a besoin de comprendre que ce qu'on fait, ce n'est pas pour faciliter la consommation. Au contraire, c'est pour protéger la population. Les gens qui s'échangent des seringues, qui partagent. Et ce qui est important aussi, c'est par rapport à l'équipe. Parce qu'on a mis en place une équipe outreach, une équipe qui va sur le terrain, qui distribue ce matériel, mais qui le récupère aussi. Nous avons des taux très satisfaisants de récupération de seringues qui dépassent les 60%.
Ça fait qu'il n'y a pas de seringues qui traînent.
Il n'y a pas de seringues qui traînent, personne n'est exposé, il n'y a pas de danger.
Je voudrais qu'on parle d'une deuxième recherche que vous menez, Calorine Mikedje, avec Médecins Sans Frontières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, mais de façon très rapide et très brève, vous menez une recherche sur le traitement antituberculeux donné finalement en prévention à des malades du sida. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore déclenché une tuberculose, c'est bien ça?
En effet, une autre partie de la recherche opérationnelle que nous faisons, c'est sur la recommandation de l'OMS sur le traitement prophylactique à l'isoniazide, qui est un antituberculeux qui est donné aux patients VIH positifs, qui n'ont pas encore développé la maladie, en effet. Et cette recherche opérationnelle, c'était pour démontrer l'usage ou non du test intradermo-réactionnel. Parce que c'est une prophylaxie qui devrait être prise pendant 36 mois. Et on se demandait s'il fallait avoir une approche systématique pour tous les patients ou s'il fallait avoir des critères de sélection. Et les premiers résultats qu'on a pu voir, ils sont pas encore certains. On est un peu au-delà de 35% de positivité du test intradermo-réactionnel. Alors, est-ce qu'il faudrait finalement avoir une approche standard pour tous les patients ou mettre ce test comme critère de sélection? Et comment est-ce que c'est implémentable? Parce que c'est un test qu'il faut faire et avoir une lecture de 48 heures plus tard.
Donc il faut que le patient revienne.
Tout à fait.
Professeur Serge Éolier, est-ce qu'il y a un ministère de la Recherche en Côte d'Ivoire?
Oui, il y a un ministère de la Recherche. Nous-mêmes, on se définit comme des enseignants-chercheurs. Donc on appartient au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En fait, par rapport à l'infection à VIH, nous pensons tous que l'infection à VIH a été un booster, pour bien dire en anglais, pour pousser la recherche.
Un accélérateur de la recherche.
Maintenant, on a un stade, une période charnière. Il faut que les chercheurs du Sud restent au Sud, ou ceux qui ont la capacité au Nord, chercheurs du Sud, reviennent au Sud. C'est déjà la première des choses. Et c'est ce que j'appelle la recherche sans frontières. Il faut qu'on cesse de parler de recherche francophone, de recherche anglophone, tout ça. Que l'ANRS vienne ici en Afrique du Sud, c'est déjà la recherche sans frontières. Et je pense personnellement que la recherche de l'ANRS était quand même la première à partir vers les pays anglophones. On ne voit pas autant ce retour vers nous. Les décideurs nationaux, ils ont tout cela dans leur programme, mais il est important qu'il y ait un académique fort en face. Lorsque vous avez un académique fort, c'est-à-dire une université forte au nord, qui se retrouve avec un site qui n'est qu'un site de santé, qui n'est pas un site de recherche, ça ne marche pas toujours bien parce qu'il n'y aura pas de relais plus tard. Donc, dans la formation, il faut que les chercheurs en Afrique aient un vrai profil de carrière. On n'est pas tous destinés à être enseignants, mais on peut être chercheurs. Et pour finir, il faut qu'on trouve des thèmes de recherche porteurs. Aujourd'hui, on parle du vieillissement des populations. On a 15% de la population infectée par le VIH qui a plus de 50 ans. Il faut qu'on puisse travailler avec ces populations. Idriss Abba est là. François Davis et moi, on pense à ces troubles neurocognitifs, aux troubles de l'appareil locomoteur. Il faut qu'on travaille là-dessus, les cancers. Et aussi, pour finir, là-dessus, sur les hépatites. Pour nous, c'est une question clé. Les hépatites, vous en avez parlé, B et C. C'est un des gros thèmes de recherche. Et l'ANRS, c'est bien VIH et hépatite.
Idriss Abba, justement, comment améliorer cette recherche en Afrique?
Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Ollier qu'il y a plusieurs thématiques qu'on peut développer. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on passe aussi aux enfants, aux tout-petits. Par exemple, quand on voit les usagers, on voit que très tôt, il y a eu des traumatismes, il y a eu des problèmes qui n'ont pas été pris en compte, une souffrance qui n'a pas été prise en compte. Et on gagnerait à développer ça davantage au niveau de la recherche.
Alors là, franchement, on manque de psychiatres en Afrique, hein, on le sait, c'est absolument incroyable. Un mot pour conclure, François Dabis, justement, sur la question du développement de cette recherche sur le continent africain.
Ben, je crois que mes collègues africains là, ont tous extrêmement bien parlé sur le fait que cette recherche, maintenant, elle est totalement appropriée par une communauté de chercheurs de très haut niveau en Afrique. Nous, ce qu'on peut faire, c'est deux choses. C'est garantir qu'un certain nombre de financements qui viennent du Nord sont vraiment engagés vers le Sud. La France, avec l'Agence nationale de recherche sur le sida, dépense entre 25 et un peu plus, 25% de son budget vers les pays du Sud. C'est à la fois pas assez, c'est quand même
déjà
beaucoup.
Pas mal.
Le président de la République est venu aux journées des 25 ans de la NRS et a montré son engagement à soutenir cette recherche. Donc nous, on est stimulés pour continuer à faire ça. Peut-être qu'il faut une chose aussi qu'on fasse, c'est continuer nos recherches au Nord sur des sujets qui, assez rapidement, deviendront des vrais sujets au Sud, notamment, est-ce qu'on peut diminuer la quantité de virus que portent les gens, ce fameux réservoir? Parce qu'on voit bien que si on avait ce type de solution, il faudrait immédiatement les appliquer dans les pays du Sud. Donc, toutes les solutions qu'on trouvera au Nord sur ces domaines-là, et peut-être parfois aussi sur des études Nord-Sud, vont servir. Et voilà. Et le risque qu'on pourrait voir dans les 5 ans à venir, c'est de voir des recherches dont on se dise, eh ben voilà, les solutions sont au Nord, et comme en 2000, eh bien, les patients sont au Sud et les solutions ne sont pas là. Donc, il faudra qu'on fasse ces recherches pour très rapidement les translater vers le Sud et vers l'Afrique.
Il faut rester vigilant et Mandela, hein, d'ailleurs, l'était vraiment sur ces questions d'équité et de droits de l'homme en termes d'accès aux soins. François Dabis, Serge Ollier, Idriss Saba et Calorine Mekedjé, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'ai bien compris, on se donne rendez-vous dans 2 ans au prochain ICASA, cette conférence sur le sida en Afrique.
Priorité santé sur RFI.
La 17e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique vient de se terminer au Cap en Afrique du Sud. Elle était organisée par la SA, la Société africaine anti-sida. Son président, le professeur Robert Soudré, nous donne ses impressions sur cette rencontre.
Nous arrivons ici avec de très bonnes nouvelles, en ce sens que le Fonds mondial a pu réunir près de 12 milliards de dollars US pour lutter contre le sida. Le nombre de personnes pouvant avoir le traitement antirétroviral en Afrique a beaucoup évolué. La conclusion de notre conférence est que le monde a changé vis-à-vis du sida et que l'espoir est permis. Quand nous regardons les communications scientifiques, l'engagement des leaders, nous pouvons tirer une conclusion pour vraiment un avenir meilleur.
Clairement, on sait ce qu'il faut faire pour arriver à la fin de cette épidémie. Simplement, il manque encore quand même des moyens financiers. Et il y a aussi un autre grand problème, c'est la question de la discrimination qui a été longuement évoquée ici pendant cette conférence et qui fait le lit de l'épidémie.
Je crois que pour ce qui concerne les moyens financiers, comme vous avez pu le constater lors de mon discours d'ouverture, nous avons fait d'abord appel au gouvernement africain pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que depuis leur engagement d'Abuja de 2001, pour financer la santé dans leur pays à hauteur de 15%, peu de pays ont atteint cet objectif. Donc il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais aussi, nous avons fait appel à la solidarité internationale, solidarité qui est déjà en marche pour un certain nombre de nations nanties. C'est dans cette optique que nous avons pensé devoir lancer un appel urgent et vibrant à la Chine pour qu'elle aussi, elle puisse intervenir dans la mesure où c'est la deuxième puissance économique du monde.
La Chine qui est très présente sur le continent africain.
La Chine est très présente. Elle est dans tout, sauf dans le sida.
C'était le professeur Soudré, président de la SAA, la Société africaine anti-sida. Et pour terminer, Michel Sidibé, directeur de l'ONU SIDA, dresse un bilan de cette conférence ICASA, la 17e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, qui vient donc de se terminer au Cap.
Moi, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience à tous les niveaux. Les gens commencent à se rendre compte qu'on n'ira pas vers le changement que nous désirons si nous on ne met pas au centre de nos préoccupations les personnes qui sont exclues, les personnes qui sont victimes de stigmatisation et de discrimination. Et j'ai vu que dans toutes les réunions, que ça soit la question du traitement, que ça soit les questions de prévention, que ça soit les discussions sur les réformes à entreprendre après 2015, les personnes nous ont interpellés sur les violences contre les femmes, les violences violence contre les jeunes filles. Et surtout, l'exclusion des personnes à risque, tels que les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les prisonniers, les travailleuses du sexe, les personnes migrantes qui se trouvent être molestées et par moments même tuées pour des raisons qui ne sont pas acceptables et sans que nos consciences soient révoltées. Donc moi je pense que la question de la discrimination, la question de la stigmatisation et surtout la question de la justice sociale et de l'équité était vraiment l'une des questions les plus centrales de cette session de ICASA.
Mais là, franchement, c'est les hommes politiques qu'il faut interpeller, les gouvernements, pour que dans certains pays, ils changent les lois. L'immense majorité des pays africains condamnent l'homosexualité, la criminalisent. Là, c'est au niveau des gouvernements, c'est même plus au niveau de la société.
Oui, vous savez, les gouvernements vont agir lorsqu'il y aurait une demande et des pressions venant de la communauté, de la société. Parce que jusqu'à présent, on nous a fait croire qu'il n'y avait pas d'homosexualité et qu'il n'y avait pas de travailleuses du sexe et que de toute façon, même lorsque ces personnes existaient, c'était des petits groupes marginaux. Mais on se rend compte aujourd'hui que dans la plupart des pays, on a un problème qui émerge, qui est un problème sérieux. C'est le fait que les lois sont mauvaises et qu'on exclut les personnes parce qu'ils ont une orientation sexuelle différente, ou bien on ne se rend même pas compte qu'avec l'urbanisation, on a une augmentation de plus en plus de personnes qui s'injectent la drogue, qu'on a une société qui est très très jeune, et que cette société qui est très jeune, malheureusement, avec des jeunes qui ont très peu d'accès aux opportunités d'emploi, avec aujourd'hui une augmentation de la circulation de la drogue, on aura les mêmes problèmes. Donc, il faut nécessairement que la question de la pénalisation et surtout de la criminalisation de ces personnes-là soit abordée de façon courageuse. Et ces dirigeants politiques doivent comprendre qu'ils ne pourront pas bâtir une société qui sera une société stable, en paix, lorsqu'on exclut une partie de la société.
Mais comment faire, là, concrètement, pour que les gouvernements changent les lois? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à la tête de l'ONU-SIDA?
Moi, je crois que, d'abord, le fait qu'on ait pu apporter les données scientifiques qui montrent aux leaders politiques que c'est quand même un problème. Lorsque vous êtes, par exemple, en Côte d'Ivoire et que vous avez 18% des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes qui sont séropositifs, et qu'on sait que moins 66% de ces hommes ont des relations stables avec des femmes, mais c'est très risqué. On va se retrouver avec une épidémie qui va exploser. Et ce n'est pas le cas seulement de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Togo, c'est le cas du Nigeria, c'est le cas du Kenya. Donc on voit le même phénomène un peu partout. Donc il est indispensable d'être courageux. On ne fait pas la promotion de l'homosexualité, on ne fait pas la promotion de la prostitution, on ne fait pas la promotion de l'utilisation de la drogue, mais on fait la promotion de la protection des vulnérables, que ces personnes aient accès aux services comme n'importe quelle autre couche de la société.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence sur le sida au Cap en Afrique du Sud? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'était presque un peu mou? Je trouve qu'on a peu vu d'activistes. Je connaissais les activistes sud-africains comme étant très volontaires, très actifs. On les a peu entendus. Est-ce qu'il n'y a pas une petite déception de ce côté-là?
Je crois que le décès du président Mandela était quand même un moment très fort et les gens ont plutôt pris le temps de se recueillir sur ce moment difficile pour eux. Mais ce que je pense quand même, c'est que l'activisme aussi n'est plus le même. La plupart des gens ont accès au traitement. C'est pour ça qu'il faut qu'on se batte contre la complaisance. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que un autre type d'activisme puisse émerger avec ces jeunes qui, de plus en plus, demandent une autre forme d'éducation sexuelle. Ces jeunes qui demandent aujourd'hui l'accès aux mesures de santé reproductive et leur droit d'avoir l'information pour pouvoir se protéger. Ces jeunes qui ne veulent plus être des bénéficiaires passifs de nos actions et qui demandent plus de justice, qui refusent le silence. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle forme d'activisme qui apparaît, mais qui n'a plus du tout le même sens. Et je crois qu'il faut l'accepter.
Michel Sidibé, vous qui êtes à la tête de l'ONU SIDA, Mandela vous a beaucoup aidé dans le combat, dans la lutte contre le SIDA. Est-ce qu'avec sa disparition, on n'a pas un peu l'impression de perdre des hommes de grande envergure qu'on n'a plus tellement aujourd'hui dans ce combat contre le SIDA?
Vous savez, quand j'ai demandé à Aung San Suu Kyi de bien vouloir être notre ambassadeur pour combattre la discrimination, je lui ai dit qu'il n'y avait que deux personnes au monde qui pouvaient porter, disons, ce flambeau. Et c'était le président Mandela et elle-même. Et j'avoue honnêtement que la disparition du président Mandela est pour nous très difficile parce que il a toujours porté les valeurs qui vont nous permettre d'aller vers la fin de l'épidémie, c'est-à-dire bâtir des sociétés inclusives, c'est-à-dire se battre contre la discrimination, c'est-à-dire amener la compassion au centre de nos préoccupations, c'est-à-dire refuser que des personnes soient rejetées à cause de leur orientation sexuelle. Vous prenez la constitution de l'Afrique du Sud, elle est bâtie autour de cela. Et c'est pour cela qu'on a moins de problèmes sur ces questions-là que dans d'autres pays d'Afrique. Et cette tolérance, cette vision d'une société inclusive, du respect de la vie humaine, restera pour nous quand même quelque part centrale au message qu'il nous aura légué.
C'était donc Michel Sidibé, directeur de l'ONU SIDA, qui dressait un bilan de cette conférence ICASA, la 17e conférence internationale sur le SIDA et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, qui vient donc de se terminer au Cap, en Afrique du Sud. Merci à Didier Bleu, une émission réalisée avec l'appui de l'Union européenne. Au revoir à tous.